dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Notre débat sur le projet de loi contre le séparatisme adopté en première lecture à l'Assemblée nationale française sera le thème de notre débat dans quelques petites minutes. Le temps de vous proposer cette rubrique décryptage.
Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Docteur Cédric Abba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, analyste. Vous avez récemment signé pour comprendre Boko Haram. Le sommet du G5 Sahel a pris fin mardi à N'Djamena, au Tchad. Les chefs d'État se sont notamment félicités des résultats enregistrés face au groupe terroriste depuis un an. Est-ce que vous partagez ce satisfait-ci?
Ah oui, d'évidence, sur le terrain, particulièrement dans la zone des trois frontières, qui est commune au Burkina Faso, au Niger et au Mali. On a assisté depuis le sommet de Pau à un inversement de rapport de force. Parce que, comme vous vous souvenez, au mois de novembre et de décembre, les groupes djihadistes, particulièrement l'État islamique au Grand Sahara, avaient porté des coups très sévères aux positions des forces de défense et de sécurité du Niger. On parle d'environ 50 à 200 personnes qui ont été tuées. Mais depuis le sommet de Pau, avec la décision de reconcentrer les forces sur la zone des trois frontières, il y a eu beaucoup moins d'attaques durant l'année 2020 que les années précédentes. Et les groupes djihadistes ont perdu beaucoup de terrain du fait de la concentration des efforts. La France a envoyé des forces supplémentaires dans cette zone. C'est clair qu'il y a des acquis. Les groupes djihadistes restent encore menaçants puisque en novembre et en décembre, il y a eu la mort de 5 à 8 soldats français dans cette zone.
Il y a eu également une attaque en janvier dans deux villages du Niger avec un bilan de plus de 100 morts.
Oui, c'est exact. Il y a ces aspects-là qui viennent dire que sont présents, mais il y a des acquis incontestables aujourd'hui. La zone des trois frontières est beaucoup plus sécurisée qu'avant le sommet de Pau et celui de Nouakchott en février 2020.
Est-ce que vous pensez que l'annonce par le président tchadien de l'envoi de plus d'un millier d'hommes justement dans cette zone de trois frontières pourrait significativement changer la donne et renforcer cette avancée?
Absolument. Ça va être une vraie valeur ajoutée, l'arrivée des soldats tchadiens qui ont une expérience de combat reconnue et qui se sont illustrés en 2013 pendant la guerre aux côtés de Serval et qui ont une expérience acquise sur d'autres fronts, notamment dans la lutte contre Boko Haram, puisque vous savez que le Tchad a envoyé des troupes au Cameroun, au Niger, même au Nigeria. Ça prouve que l'arrivée les Tchadiens ont un savoir-faire militaire qui va être très utile dans cette zone-là, pour contenir les groupes armés, notamment pour empêcher leur mobilité. Mais il faut se garder de penser que la solution militaire et sécuritaire va être la solution durable dans cette zone. Il faut penser au développement, il faut penser à la bonne gouvernance, il faut penser à la présence de l'État. Ce qui s'est passé en janvier au Niger, c'est parce que l'État est absent. Les forces de sécurité n'étaient pas là. Il n'y a ni sous-préfet, ni administration. Les gens ont pu venir faire ce qu'ils voulaient partir.
Les chefs d'État se sont également félicités du renforcement de la coopération entre la force Barkhane et les armées des pays du G5 Sahel. Mais ce n'est pas l'avis de certains experts africains.
Oui, il y a eu une avancée significative parce que, si vous vous souvenez, avant le sommet de Pau, le Burkina a même écrit aux ambassades de France et du Niger disant que désormais, si des avions survolent le pays sans qu'on sache, on les prendra pour cible. Parce qu'à cette période-là, il n'y avait aucune coordination. La force Barkhane pouvait faire une opération au Mali sans que les forces maliennes, eux-mêmes les autorités maliennes, soient informées. Elles pouvaient le faire au Niger, elles pouvaient le faire au Burkina. Mais depuis la montée, depuis les manifestations de réprobation auxquelles on a assisté au Mali, au Burkina Faso, les chefs d'État eux-mêmes ont compris qu'il était dans leur intérêt, dans l'intérêt de leur gouvernement, de demander à la France de pouvoir mieux coordonner ses opérations avec les armées nationales. Et à partir du sommet de Pau, on a créé une unité de coordination à Niamey qui permet d'avoir une coordination entre Barkhane et les forces armées du Niger. C'est une première avancée. Et aujourd'hui, il y a des soldats africains, des soldats des pays du Sahel qui sont intégrés dans des bataillons français qui combattent. Il faut aller beaucoup plus loin.
Quand vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire précisément?
Par exemple, en matière de renseignement, ils ont les drones. Donc, quand ils ont un renseignement, au lieu d'attendre le lendemain ou trois jours après, ils peuvent le partager en temps réel avec les armées de ces pays-là. Donc, et lorsqu'un contingent du Niger, du Mali ou du Burkina est engagé sur un front, ils peuvent appeler immédiatement un renfort aérien de la part de la France. Mais il faut que ça devienne systématique, la couverture aérienne.
Avant le sommet, il y avait également un débat sur le retrait ou tout au moins la réduction de nombre de soldats de la force Barkhane. Pourquoi finalement Emmanuel Macron a-t-il changé d'avis?
La France a compris que si elle partait aujourd'hui comme ça, de façon unilatérale et précipitée, les acquis dont on a parlé vont être perdus. Mais si vous remarquez, le président Macron n'a pas dit que la France renonce. Elle dit que la France a différé. Avec l'arrivée de soldats tchadiens et avec le renforcement de la force Takuba, ça va donner à la France d'avoir un calendrier.
Docteur Cédric Abba, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Analyste, écrivain, votre dernier ouvrage pour comprendre Boko Haram.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous. Et ce soir, nous parlons de la controverse qui se poursuit autour du projet de loi sur le séparatisme largement voté en première lecture à l'Assemblée nationale française hier mardi. Et nos invités pour en parler sont Mohamed Lamine Gassama, référent de LRM, La République en marche du 20e arrondissement de Paris. Monsieur Gassama, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs.
Bonsoir, monsieur Odon Vallet.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste des religions et également fondateur de la Fondation Valais, le plus grand réseau de bibliothèques de l'Afrique francophone. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Abdallah Zekri dans quelques instants. Il n'est pas encore en ligne avec nous. Nous allons donc commencer avec vous, messieurs. Et vous, monsieur Gassama, vous êtes donc de la majorité. C'est vous qui avez souhaité cette réforme, ce projet de loi. Souhaité donc par le président Macron. Pourquoi le présentez-vous comme étant l'un des marqueurs régaliens de son quinquennat, c'est-à-dire un bilan plutôt positif et remarquable, alors que ce texte est au centre de diverses critiques?
Les critiques, elles viennent surtout des opposants. Donc ça, c'est, on va dire que c'est normal. Ils font leur travail d'opposant, même si je note quand même que en tant que républicain, cette loi était quand même une loi équilibrée et qui a pour objectif surtout de dire ce qu'est la République et de renforcer cette République au sein de nos institutions, au sein du service public. Je rappelle que les agents du service public seront protégés par cette loi et auront aussi un devoir de neutralité grâce à cette loi-là. Donc c'est vraiment une loi qui va permettre de renforcer et d'amplifier aussi la question de la laïcité dans notre société. On sait que à l'heure actuelle, on est heurté par beaucoup de courants qui veulent, on va dire, séparer certains de nos concitoyens du fait de la République. Et donc, cette loi, elle vient à point nommé pour justement renforcer, solidifier cet équilibre fragile, parce que tout ça est bien fragile, des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, rappelons-le. Et donc, les députés, et je les salue, en tout cas ceux qui ont voté cette loi, les plus de 350 députés qui ont voté cette loi, ont fait l'acte de républicanisme.
347 députés pour, 151 contre et 65 abstentions. Si on ajoute les abstentionnistes aux opposants, on est à 216 députés. Est-ce que il y a des raisons de vraiment s'en réjouir?
Après, vous savez, il y a toujours des postures politiciennes. Hein, ça, en politique, on est habitué. Mais moi, je dis, voilà, il y a eu un nombre de parlementaires qui ont marqué leur attachement à la République, et ça, c'est vraiment très important. Cette loi va maintenant aller au Sénat, elle va suivre son parcours parlementaire, et donc après, elle reviendra à l'Assemblée pour justement cette navette démocratique, pour que cette navette démocratique se fasse. Donc maintenant, la balle au sénateur.
Merci beaucoup. Monsieur Andovalet, vous partagez cette joie, cet enthousiasme de la majorité ?
Écoutez, je ne suis pas enthousiaste, mais je ne suis pas non plus trop critique. Il se trouve qu'en 2005, pour le centenaire de la loi de 1905, j'avais fait beaucoup d'émissions à la télé. J'avais été demandé par le maire du 18e arrondissement, le plus laïque de France, pour en parler. Et j'avais dit, écoutez, la loi de 1905, elle s'appliquait uniquement en France métropolitaine et pas en Alsace-Moselle qui était allemande. Elle ne s'appliquait pas dans l'Empire français qui comptait 20 millions de musulmans. Or, il n'y avait pratiquement pas de musulmans dans la métropole en 1905. Alors, ce qu'on veut faire depuis, c'est essayer de donner un cadre juridique à l'islam en France. Car quand on parle de séparatisme avec beaucoup de guillemets, on vise la religion musulmane essentiellement. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on fait une laïcité en France qui est un petit peu trop dirigée contre une religion. Moi, je préfère la laïcité à la béninoise, où toutes les religions catholiques, protestantes, musulmanes et vaudounes sont à égalité. Mais je reconnais pour mon ami et ancien camarade Emmanuel Macron qu'il y a de grandes difficultés. Je suis d'accord sur certains points dans cette loi. D'abord, l'éducation à la maison. Il est normal de ne pas se contenter d'une déclaration, mais de demander une autorisation. Ça, c'est normal, parce que sinon, on se demande si vraiment il y a une éducation conforme au programme dans la famille. Par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est la mise sous régime de contrôle des clubs sportifs et pas de simple tutelle. Alors, je sais bien, j'ai fait de nombreuses interventions pour la Fédération française de football là-dessus. Oui, c'est vrai, il y a un islamisme radical dans certains clubs de foot, mais n'exagérons pas, c'est 1 ou 2% des clubs de foot. Il y a déjà tellement de difficultés dans les clubs sportifs que n'en rajoutons pas, vous voyez. Alors, le troisième problème, c'est la neutralité du service public. Je suis d'accord avec la loi. Il faut qu'il y ait une neutralité du service public. Bon, normalement, la jurisprudence suffit, mais si on veut le rappeler, vous avez raison, à condition de bien dire que ce qu'est la neutralité du service public. Merci. Moi, j'ai enseigné pendant 9 ans, si vous voulez, les sciences humaines aux facultés de médecine Bichat et Lariboisière Saint-Louis. Bah, je disais aux juifs qui avaient le kippa dans mon cours de première année, vous pouvez garder la kippa, mais quand l'an prochain vous serez à l'hôpital, il faudra l'enlever. Je disais aux filles musulmanes qui avaient un voile, vous pouvez garder le voile dans l'amphi, mais l'an prochain en stage, avec stage infirmier, vous enlevez le voile, etc., etc.
Merci.
Mais l'idée d'une neutralité du service public rappelé, c'est pas mal. Alors, il y a aussi la demande de subventions dans les associations. Il faut qu'elles respectent la laïcité.
Monsieur Vallée, oui, très rapidement, et si vous aviez à voter, vous étiez député, vous seriez dans quelle position ? Des abstentionnistes, comme on l'a vu avec le Parti socialiste, ou
oui.
Plutôt du côté de la majorité ?
Écoutez, moi, je m'abstiendrai, mais je ne voterai pas non. J'ai toujours eu
vous
de
voteriez
très bonnes
oui,
relations.
Alors.
Non, je ne dirais ni oui, ni non. Mais je dirais, chers amis français, regardez en Afrique, et notamment regardez le Bénin, il y a une laïcité qui est plus ouverte,
merci.
Plus respectueuse de chaque religion.
L'égalité toutes les religions.
Oui, merci. Mais on demande à chaque religion de ne pas se substituer à l'État. Sur ce plan-là, la loi actuelle ou le projet actuel de loi a raison. Mais il ne faut pas que ça concerne une seule religion.
Merci
parce
beaucoup,
Monsieur Vallée.
Permettons,
oui,
c'était un premier tour de table. Permettons également à Monsieur Abdallah Zekri qui nous a rejoint. On me faisait signe, pourtant non, toujours pas, qu'il était en ligne. Je reviens donc à vous, Monsieur Gassama. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la position que vient d'exprimer Monsieur Vallée? Et je voudrais également que vous réagissiez à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous parliez de l'opposition qui serait les seuls, des partis d'opposition qui seraient les seuls opposés au texte. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a également les protestants, mais aussi la conférence des évêques de France qui parle des dispositions, de certaines dispositions plutôt inquiétantes.
Oui, non, mais je rappelle une chose, la République française ne reconnaît aucune religion. C'est aussi la différence par rapport à d'autres pays. Et donc, c'est un fondement, comment dire, important de notre République. C'est le fait que vous avez le droit de ne pas de croire ou de ne pas croire, d'avoir des opinions ou de ne pas en avoir. C'est ça aussi, cette loi. C'est une loi qui est une loi de liberté, hein, que vous puissiez effectivement pouvoir croire en votre religion ou être athée, mais aussi c'est une loi de combat qui va effectivement combattre tous ceux qui ont pour objectif de séparer une partie de la population, notamment...
Vous parlez de loi de combat, donc le combat contre l'islam, comme le disent certains...
Contre ceux qui veulent séparer une partie de notre population, communauté nationale, de la République. Et ça, c'est vraiment, je pense, un point extrêmement important. Alors, vous parliez tout à l'heure des oppositions. Je prends l'exemple des Républicains, donc le parti de la droite, qui ont voté contre.
Oui, en estimant que vous n'êtes pas allé aussi loin qu'ils espéraient.
Vous savez, soit on va trop loin et la gauche nous dit vous allez trop loin, soit vous n'allez pas assez loin, la droite nous dit vous n'allez pas assez loin. Donc finalement, je pense qu'on est dans un juste équilibre.
Et donc, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes allé aussi loin que au point que cela puisse peut-être finalement créer une tension au niveau des cultes? Parce qu'on a vu, je parlais des protestants, je parlais aussi des catholiques, les juifs, eux, approuvent cette législation, ce projet de loi, pas le conseil du culte musulman, mais est-ce que finalement vous n'allez pas vous mettre à dos tous les cultes, ou presque?
C'est une loi qui va protéger justement le culte. Tout à l'heure, on rappelait les financements qui vont être tracés, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir des associations qui vont avoir des financements étrangers.
Monsieur Gassama, est-ce que vous pouvez répondre directement à ma question, s'il vous plaît, par rapport à la position de la quasi-totalité des cultes en France sur ce projet de loi?
Les cultes défendent leur position. Après, nous, on est là pour défendre le fait républicain. C'est ça qui est important, madame. Et donc, c'est pour ça que je vous dis.
Donc, vous pensez que jusque-là, les cultes ne respectaient pas cet esprit républicain que vous pensez défendre à travers ce projet?
Vous savez, les cultes discutent énormément avec le pouvoir public. Moi, j'étais un ancien élu à la mairie du 20e et j'avais des relations avec les différents cultes de l'arrondissement pour, bien sûr, savoir comment les citoyens qui sont croyants vivaient leur culte dans l'arrondissement. Et on a un dialogue constructif et un dialogue permanent. Maintenant, la puissance publique doit, à un moment donné, quand on voit qu'il y a un problème qui est récurrent dans les quartiers, dans les territoires, qu'il faut y apporter une réponse législative. Et c'est ce que fait cette loi. Elle n'est pas contre une religion ou des religions, elle est là pour réaffirmer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les principes qui fondent notre République, donc la laïcité, entre autres. Donc ça, je pense que c'est important.
Et, le président de la conférence des évêques affirme que cette loi est répressive et donne le sentiment que les croyants sont des citoyens dont il faudrait se méfier.
Pas du tout, non. Au contraire, je vous dis qu'on est là parce qu'on est là pour préserver notre bien commun. Ce qui nous fédère, c'est le fait républicain. Et donc, le fait qu'on puisse pouvoir observer son culte dans des conditions que permet la loi française est un acquis pour la France. Les religions, les personnes qui ont une croyance peuvent, comme ils le souhaitent, observer leur culte. Il n'y a pas de répression en France, comme peut-être il y a pu avoir dans d'autres pays ou dans d'autres temps. Je le réaffirme avec force. Je ne peux pas laisser dire cela. Et les religions ont été aussi auditionnées lors de l'examen préliminaire dans la commission qui avait pour but justement de parler autour de cette loi-là. Donc, je vous le dis, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une loi contre les religions, c'est une loi qui permet effectivement de donner un cadre, notamment dans le service public, notamment effectivement sur l'école, et d'autres aspects associatifs et financiers.
Merci, M. Gassama. On marque une très courte pause, messieurs. Ondo Valet et Mohamed Lamine Gassama. Oui, on se retrouve dans un petit instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous débattons ce soir du projet de loi sur le séparatisme qui a été largement voté mardi par les députés français en première lecture avec nos invités Mohamed Gassama, référent La République en marche du 20e arrondissement de Paris, Odon Vallet, historien spécialiste des religions. Et pour l'instant, nous n'arrivons pas à joindre M. Abdallah Zekri qui était également censé participer à cette émission. Donc, je vous redonne la parole, M. Odon Vallet. Quand on écoute M. Gassama défendre l'idée selon laquelle il n'y a pas de répression, ce projet de loi n'est pas contre les religions, est-ce que c'est le sentiment qui se dégage lorsque vous lisez ce projet de loi et lorsque vous entendez les préoccupations exprimées par les uns et les autres, et notamment les religieux?
Oui et non. Hein. Je vais vous faire une réponse un peu normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, notre ami député du 20e arrondissement a raison sur un certain nombre de points, mais par exemple, l'archevêque de Paris a raison aussi quand il dit attention, attention, quand on parle de financement, parce que il y a des congrégations catholiques en France qui sont financées par des étrangers, par exemple des étrangers américains très fortunés, très conservateurs. À l'inverse, vous avez des églises catholiques en Afrique qui sont en partie financées par des Allemands, par des Français, etc. Ça, c'est pour le financement. Ensuite, pour ce qui concerne les personnes, c'est vrai qu'il faut faire attention, il peut y avoir des imams qui soient tout à fait proche du djihad, ou au moins d'un salafisme pur et dur. Il y en a. Mais il y a une grande majorité quand même, heureusement, qui en sont loin. Mon ami le roi Mohamed VI a fait quelque chose de formidable à Rabat, et je n'y suis pas totalement étranger, c'est qu'il y a une faculté de théologie à Rabat où on apprend un islam de rite malikite et pacifique, et on s'adresse à des imams qui viennent parfois de pays en guerre, hein, comme le Mali avec le djihad. Moi, je pense que des imams qui ont été formés au Maroc de la manière pacifique qui est à Rabat, eh bien, ils peuvent parfaitement venir en France. Parce que vous savez, il y a aussi des ministres du culte dans certaines églises protestantes qui viennent d'autres pays que la France et qui sont loin d'être pacifiques, qui ont des idées parfois intégristes. Donc moi, je suis assez d'accord avec le président de la conférence épiscopale française. Attention, attention, attention. Ce projet de loi a raison d'attirer l'attention sur un certain nombre d'imams qui ont un comportement qui n'est pas du tout républicain. Tous ne sont pas comme ça. Et surtout, on ne peut pas isoler l'islam français de l'islam mondial, ni le catholicisme
mondial. Les cultes musulmans regrettent aussi qu'on a le sentiment qu'on fait un projet de loi pour une faible minorité de musulmans.
Alors voilà, il y a un peu de ça. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas considérer tous les musulmans de France comme des intégristes salafistes à la limite du djihadisme. Il y en a, ne le cachons pas, dans certaines banlieues, il y a des imams qui ont un comportement inadmissible. Mais ce n'est pas la majorité, et j'ajouterai qu'il y a aussi parfois des prêtres catholiques, des pasteurs protestants dans certaines églises qui ont un comportement plus que discutable par rapport à la République. Donc toutes les religions sont concernées, vous savez, et il peut y avoir chez certains israélites ultra-conservateurs de type assidique, des comportements quand même bizarroïdes aussi.
Et merci beaucoup, Monsieur Vallet. On va laisser Monsieur Gassama répondre justement sur ce point, sur le fait que ce projet de loi semble viser uniquement l'islam et peut-être renforcé par l'affaire Samuel Paty.
Il y a eu forcément quelque chose, on va dire, un détonateur pour que le législateur se dise qu'il fallait faire une loi. Mais après, je le répète clairement, que c'est pas une loi contre l'islam ou contre les musulmans.
Mais vous venez d'écouter aussi l'analyse de M. Vallet.
Oui, bien sûr, je l'entends.
Qui parle de comportement de certains pasteurs aussi ou prêtres qui...
Vous savez, l'extrémisme existe partout. Que ce soit dans les religions ou dans la vie civile ou en politique ou même dans les associations. Et justement, c'est ça qu'on combat. Par exemple, cette loi va aussi permettre de renforcer un arsenal qui, pour les collectivités locales. C'est-à-dire que une collectivité locale qui va donner une subvention, ou en tout cas qui va octroyer une subvention à une association, ne pourra le faire que si l'association respecte les valeurs de notre République. Par exemple, là, il y a Génération Identitaire qui va être peut-être dissolue. C'est une association d'extrême droite, groupuscule d'extrême droite. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas juste le fait.
Mais il y a déjà une association qui a été dissoute, en 2019, dénonçait l'islamophobie.
Tout à fait, oui, Baraka City et le CCIF. Donc, je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui vise une partie de la population ou une religion en particulier. C'est quelque chose, c'est une loi qui est là pour effectivement donner un arsenal juridique aux collectivités locales, aux préfets et bien sûr à la collectivité dans son entièreté pour combattre justement ce séparatisme.
Monsieur Gassama, autre préoccupation, oui. L'incursion de l'État ou l'immixion de l'État dans le religieux ne remet-elle pas finalement en cause le principe de la laïcité ?
Il n'y a pas d'incursion de l'État dans le religieux. Ça n'a jamais été le cas.
Mais cette loi vient quand même réglementer le fonctionnement. On vient de parler de financement, on vient de parler des imams qui peuvent venir en France et prêcher.
Madame, l'État est garant.
L'État se mêle bien du religieux à travers ce projet de loi.
Attendez, l'État est garant du bon fonctionnement de la vie civile en France. C'est-à-dire qu'une association. Et prenons un exemple. Dans un quartier qui commence à prêcher un salafisme assez dur, un intégrisme assez dur, vous croyez qu'on doit rester les bras ballants et laisser cette association détourner certains jeunes des valeurs de la République ? Non, effectivement, il faut réagir. Et cette loi, elle est là pour ça. Elle est là pour, effectivement, faire en sorte que tous ceux qui veulent soustraire nos citoyens, concitoyens, aux valeurs de la République ne puissent pas le faire. Donc c'est Merci. Ça qui est important de le dire.
Mais, Monsieur Vallet, est-ce que c'est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez que la laïcité est ici remise en question ?
Alors, si vous voulez, la laïcité, c'est un mot français quasiment intraduisible dans d'autres langues. En anglais, on dit « secularism ». Et Gambetta avait dit, en 1875 ou 77, la laïcité n'est pas un article d'exportation, l'anticléricalisme non plus, etc. En France, on est absolument fixé et même figé sur cette notion de laïcité, et les pays étrangers, même voisins du nôtre, ne comprennent pas pourquoi. Oui, il faut que l'État soit laïque et que la France soit laïque dans le sens où aucune religion ne doit se substituer à l'État. Il est anormal que dans certains quartiers de Paris, de banlieues et d'autres villes, il y ait des gens qui refusent les lois de la République. Ça, c'est vrai. Mais ça vaut pour toutes les religions. Et il ne faudrait surtout pas que l'État confonde la totalité des croyants d'une religion avec quelques extrémistes qui sont présents dans toutes les religions.
Avez-vous le sentiment que toutes les religions en France sont traitées de la même façon en matière de radicalisme qu'on pourrait leur reprocher ?
Écoutez, honnêtement, pas tout à fait quand même, parce que il y a des religions qui ont des moyens financiers, des moyens relationnels qui font qu'elles sont plus épargnées. Il est vrai qu'il y a eu vraiment des groupes intégristes catholiques qui ont trahi la République. Le meilleur exemple, c'est l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Lorsque, dans les années 70, ils ont confisqué une église au diocèse de Paris, et l'État a dit « bon, ben, on laisse tomber parce que c'est des gens qui ont des relations partout ». Et on a pu comme ça prendre d'assaut une église pour la mettre au service de gens qui étaient des intégristes catholiques, du côté, si vous voulez, de personnes qui ne respectaient pas les lois de la République, voyez-vous. Donc moi, je pense qu'il y a quand même parfois des religions qui sont moins bien défendues parce que, regardez l'argent, en moyenne, les musulmans ont un pouvoir d'achat inférieur aux catholiques, aux israélites, etc. Ça joue beaucoup l'argent, et dans les relations, si vous voulez, médiatiques, Il est vrai aussi que l'islam est moins bien représenté que d'autres religions.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gassama, ce projet ira donc devant les sénateurs à partir du 30 mars prochain. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il revienne dépouillé de l'essentiel de certains de ces articles, puisque le président de la conférence épiscopale a été déjà entendu par les sénateurs et le Sénat est dominé par la droite.
Par la droite. Tout à fait. Le Sénat est dominé par la droite. C'est le bicaméralisme en France. Et donc forcément, vu que leurs homologues députés, donc les Républicains, ont voté contre, ils vont, je pense, vouloir modifier. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez incohérent de la part des Républicains, en tout cas le parti des Républicains, c'est que leurs députés ont voté tous les articles de cette loi. Et in fine, ils votent contre.
Donc tous.
Non. Ils ont voté tous les articles. Vous savez, à l'Assemblée, on discute de chaque article. Il y a des amendements, sont acceptés ou sont pas acceptés. Et in fine, on vote article par article. Et les députés républicains ont voté pour tous les articles de cette loi. Ensuite, in fine, peut-être pour faire un effet de manche ou un effet de com', ils ont voté contre. Ce projet de loi. Moi, ce que j'ai envie de vous dire très simplement, c'est que, en fait, cette loi, elle s'inscrit dans une approche globale de la politique du président de la République et du gouvernement. C'est l'égalité des chances. C'est-à-dire que depuis le départ de ce quinquennat, on veut donner plus à ceux qui ont le moins. Et cette loi va aussi renforcer cela. Je rappelle que dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire, il y a le dédoublement des classes. Et ça va être quelque chose de fondamental pour nos tout-petits, quand ils commencent l'école, de pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement avec des classes moins chargées. C'est aussi ça qui est important de rappeler. Là, très récemment, il y a 3 milliards environ qui ont été alloués pour la politique de la ville.
Monsieur Gassama, vous continuez de défendre votre projet de loi. Je pense que vous êtes suffisamment exprimé sur le projet.
La
suite. Maintenant, le Sénat va en discuter. Est-ce que vous ne redoutez pas un revers ?
Mais il n'y a pas de revers, madame. Le Sénat va voter une loi et ensuite ça va revenir à l'Assemblée. Et l'Assemblée peut revenir sur le texte initial. C'est pas un problème, ça. C'est la démocratie qui veut ça. C'est notre démocratie, la Ve République, elle est faite ainsi. Ensuite, une loi, à la fin, sera promulguée. Elle sera promulguée par l'Assemblée nationale.
Donc vous êtes optimiste ?
Mais c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de comment fonctionnent nos institutions.
Merci beaucoup. Monsieur Vallet, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Oui, au niveau du Sénat, est-ce que vous pensez que le texte pourrait avoir du mal à passer devant les sénateurs ?
Alors écoutez, le Sénat est une assemblée de sagesse. Je pense qu'ils chercheront à trouver des compromis. Pour avoir un consensus, en général, le Sénat n'aime pas les positions trop tranchées. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire très attention aux Français à l'étranger, et notamment en Afrique. Parce qu'ils sont parfois menacés. Les djihadistes disent dans des pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina, les Français, c'est les croisés. L'armée française, ce sont les croisés. Les Français, les Blancs, les Yovos, comme on dit, eh bien, qui rentrent chez eux. Et malheureusement, on ne trouve plus de professeurs pour aller dans certains lycées français, dans des pays où il y a une tension politique et une tension militaire, comme le président Macron vient de le voir en faisant sa visioconférence.
Donc vous pensez que ce projet de loi pourrait renforcer le sentiment anti-français dans les pays majoritairement musulmans, notamment d'Afrique ?
Je pense que qu'on soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il faut en prendre conscience. La commission des affaires étrangères, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, devrait, à mon avis, quels que soient les partis politiques auxquels ses membres appartiennent, faire très attention à ça. On risque d'avoir, non pas, si vous voulez, une immigration massive de migrants de ces pays, mais tout simplement un retour en France des Français à l'étranger qui ne pourraient plus vivre dans ces pays. Il faut savoir que dans certaines administrations françaises dans ces pays, on est obligé de multiplier les salaires par 6, je dis bien par 6, au titre d'une indemnité de risque.
Si merci
vous avez
beaucoup.
Un poste au Cameroun, vous serez payé 6 fois moins qu'au Mali.
Merci
vous voyez
beaucoup.
Le danger
Monsieur Vallée, on va marquer une pause et on vous retrouve dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Merci d'écouter le grand rendez-vous avec nos invités. Nous parlons ce soir du projet de loi contre le séparatisme adopté en première lecture à l'Assemblée nationale française et avec avec Odon Vallée qui est historien spécialiste des religions, Mohamed Lamine Gassama, référent La République en marche du 20e arrondissement de Paris. Monsieur Vallée, je vous redonne la parole quelques instants pour terminer vos propos. Vous parliez des conséquences politiques à l'étranger de l'adoption de ce projet de loi, notamment sur les Français qui y vivent.
Écoutez, moi je connais plusieurs parlementaires, hein, sénateurs, députés, des Français à l'étranger, et ils me disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas forcément suffisamment écoutés par leurs collègues. N'est-ce pas ? Nous avons à l'heure actuelle un mouvement djihadiste qui veut que toute l'Afrique de l'Ouest soit djihadiste. Ils veulent descendre vers le Sénégal, descendre vers la Côte d'Ivoire, descendre vers le Togo, descendre vers le Bénin. Il faut à tout prix l'éviter. Et ça, le président Macron a eu raison de dire qu'il n'en est pas question. En même temps, il faut que la France comprenne que la grande majorité des musulmans de ces pays sont parfaitement pacifiques, comme la majorité des musulmans en France. Si vous prenez la ville de Trappes, oui, à Trappes, il y a des intégristes salafistes, mais la majorité des musulmans de Trappes ne sont absolument pas dans ces idées-là. D'autre part, la France a 66 millions d'habitants, il y a 1,4 milliard de musulmans dans le monde. Il ne faut surtout pas que la France donne aux 1,4 milliard de musulmans de la planète le sentiment qu'elle est anti-musulmane. Alors, je fais confiance au Sénat pour essayer de trouver peut-être des formulations de certains articles qui évitent justement un sentiment qu'on ne s'occupe que de l'islam.
Merci.
Et que les autres religions sont considérées comme ne posant aucun problème, ce qui malheureusement n'est pas toujours vrai.
On va laisser M. Gassama répondre à ces observations.
Oui, ce que dit M. Vallée est à prendre effectivement en compte. La France n'est pas une île et qui n'a pas d'interaction avec les autres pays. On le voit bien avec la force Barkhane dans le Sahel. C'est évident, tous ces paramètres-là sont pris en compte. Et pourquoi on est dans le Sahel ? C'est justement pour combattre ce terrorisme islamiste qui veut justement s'implanter. À l'époque, c'était au Mali, et maintenant qui s'étend un peu plus sur le Sahel. Donc le combat, il est, quand je disais que c'est une loi de combat, c'est aussi ça. C'est le combat un peu partout sur la planète. Et donc il est important effectivement de prendre en compte ces spécificités-là, bien sûr, mais en fonction bien sûr de ce que nous on vit aussi sur le territoire français. Et c'est cette alchimie, si j'ose dire, qui font les lois. Voilà, mais c'est important, bien sûr, je suis d'accord avec ça, d'écouter les députés qui sont les émanations de ces territoires-là.
Et lorsque vous défendez que la France est un pays de justice, d'égalité, M. Vallée tout à l'heure parlait aussi de cette attitude des autorités qui consiste à faire comme si c'est l'islam le seul problème en France, la seule religion problématique et pas les autres.
Je le répète, la majorité, et M. Vallée l'a dit tout à l'heure, la majorité des musulmans sont laïcs. C'est un fait, c'est quelque chose que je mesure chaque jour, quotidiennement, dans mon territoire, dans le 20e arrondissement, ils sont laïcs. Alors ensuite, il y a une poignée, et c'est ça le problème, c'est que quand une minorité est très agissante, ça fait un effet grossissant, ça fait un effet de loupe. Et donc, il faut, et de façon très tragique. Et c'est pour ça qu'il faut combattre ces minorités-là.
Merci.
Qui veulent justement apporter un poison. Et ce poison, il faut le combattre, il faut l'éradiquer. Un petit point aussi, c'est que dans cette loi, il y a une question qui est très importante, c'est justement la haine en ligne. Malheureusement, Samuel Paty a succombé et a été tué par ces terroristes, suite à une vidéo qui a été publiée en ligne. Et donc cette loi va aussi travailler, faire en sorte que on détecte le plus rapidement possible ces signaux pour qu'on ne vive plus le même drame qu'avec Samuel Paty.
Merci. Et je vais vous poser une question simple, monsieur Gassama. Ensuite, on écoutera monsieur Vallet. Pourquoi on voit dans certains sujets de reportages dans diverses télévisions médias français, des Français qui se retrouvent en pays étranger, être fiers de présenter leur quartier comme une petite France, un petit Paris. Cela ne pose pas de problème. Et ici, lorsque certains ont le sentiment que lorsque ils essaient de défendre leur culture, de la protéger, on parle de communautarisme.
Non, mais vous savez, la France est construite par l'apport de l'étranger. C'est ce qui fait son universalisme. On a toujours su intégrer justement ce qu'est le monde. C'est un réceptacle, la France. Et c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est à l'heure actuelle. On parle sur une radio qui s'appelle Africa Radio. Ça ne peut pas être un meilleur exemple. Donc c'est quelque chose qui est profondément français de pouvoir justement fécondé par les cultures diverses et variées. Combien de mots arabes il y a dans la langue française ? Combien de mots qui ont une origine arabe ? Énormément. Et même des mots qui ont des origines africaines, asiatiques. Enfin bon, c'est ça aussi la culture française. Elle sait se construire avec les autres cultures. Après, je vais le répéter, j'ai l'impression que il faut qu'on l'entende, mais justement, il y en a qui veulent pas ça. Il y en a qui veulent pas que, justement, on soit dans cet universalisme. Et donc, ils attaquent.
Monsieur Gassama. Monsieur Vallet, vous avez soulevé et à maintes reprises les insuffisances de ce projet de loi, les éléments qui font que, c'est difficile qu'il échappe aux critiques. Mais on a aussi l'impression que il n'y a pas eu de mobilisation réellement contre ce projet de loi. La manifestation de dimanche dernier contre ce projet de loi, justement, n'a pas mobilisé grand monde, à peine 200 personnes.
Vous avez totalement raison, d'autant que le virus accapare toute l'attention des Français. Mais on ne peut pas m'accuser d'être anti-Macron, puisqu'il m'avait même invité dans son carré VIP là, le jour où il défilait au Louvre, là, dans un défilé un peu napoléonien. Bon, moi, je suis d'accord avec Macron en général, sauf que je lui dirai ceci. Monsieur le Président et chers camarades, faites très attention à un projet de loi qui pourrait avoir des effets négatifs qu'on ne soupçonne pas.
Mais les Français ne le disent pas suffisamment. Les critiques sont fortes, mais quand la manifestation a été convoquée, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont sortis pour dire non à ce projet.
Mais vous avez raison, d'autant qu'on ne voit pas la dimension internationale et on ne voit pas que dans certains pays où la France est présente, notamment en Afrique, on ne comprend pas, mais alors pas du tout, cette espèce de laïcité à la française dirigée contre l'islam. Donc il faut vraiment que le chef de l'État fasse très attention, que le gouvernement fasse attention et qu'une nouvelle lecture au Sénat puisse aussi faire comprendre aux uns et aux autres qu'il faut mettre un peu, je dirais, de l'eau dans le vin, ou surtout de l'huile dans les rouages et pas de l'huile sur le feu.
D'accord, mais vous espérez qu'au Sénat, il y aura peut-être des amendements qui vont être faits, mais aujourd'hui, de quels moyens disposent les adversaires de ce projet pour essayer d'obtenir son retrait ?
Mais moi, je ne suis ni un adversaire, ni un parti.
Non, je vous demande, il y a quand même des critiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui, personnes peuvent être entendues ?
Vu la position du Parlement à l'Assemblée nationale, je pense que d'une manière ou d'une autre, ce texte, même fortement amendé, passera. Simplement, le problème n'est pas trop de savoir s'il passe ou s'il ne passe pas, mais ensuite, dans les règlements d'administration publique, dans les décrets, etc., et dans la jurisprudence, comment on va appliquer cette loi ? Il faut peut-être faire confiance au Conseil d'État qui, après la loi de 1905, a eu une interprétation libérale il y avait des circulaires qui étaient violemment anti-catholiques, qui interdisaient les processions et les sonneries de cloches, que le Conseil d'État a annulées. Donc je crois qu'il faut que la jurisprudence puisse donner un sentiment de paix intérieure.
Donc vous estimez peut-être que cette loi va passer, sans doute, mais le coût politique pourrait être énorme pour le président Macron et La République En Marche ?
Énorme, le terme est peut-être un peu excessif, mais il faut que le gouvernement, parce que là, le Parlement, il est indépendant du président, hein, c'est pas l'Élysée qui décide, mais que le gouvernement, mais aussi le Parlement dans son ensemble, prenne conscience des risques qu'il y a à trop dresser la France étatique contre un islam qui est en majorité pacifique.
Merci
cela
beaucoup.
Étant, il y a des comportements inadmissibles de certains imams et de certains musulmans. Je suis tout à fait d'accord certaines interventions.
Merci beaucoup, Odon Vallet, historien spécialiste des religions, d'avoir participé à ce débat. Vous êtes également fondateur de la Fondation Vallet. Merci à vous, Mohamed Lamine Gassama, référent de LRM, La République En Marche du 20e arrondissement. Et nous n'avons pas pu avoir Abdallah Zekri du Conseil français du culte musulman. Merci à vous.